Badaboum, 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 il y a quelqu'un.
Écoute, il paraît qu'il y a quelqu'un, car les amis de mes amis sont toujours mes amis sur amis, et j'ai le plaisir d'entendre la jolie voix de Franck Lefebvre.
Salut Guillaume, tu vas bien?
Bah écoute, ça va pas mal et toi-même de ton côté?
Ouais, super, vive le printemps.
Exactement, vive le printemps et vive... Tiens, j'avais envie de te parler d'un petit sujet pour avoir ton avis. La semaine dernière, on avait parlé des nouveautés Google. Et il y avait une autre nouveauté Google dont je voulais te parler parce que celle-là, elle ne m'est pas bien. On va parler un peu de réalité augmentée. Je ne sais pas si tu as vu. Ce sont ces lunettes qu'a présenté Google et qui ont une fonction qui, moi, personnellement, m'épate et j'aimerais bien qu'on philosophe dessus, c'est qu'en fait, quand tu les chausses sur ton nez et que tu parles à quelqu'un qui ne parle pas ta langue, il te parle et tu vois la traduction de ce qu'il dit dans tes lunettes. Et je suppose qu'après, il y aura une version audio, mais pour l'instant, c'est la traduction en texte, un peu comme un sous-titre. Ça m'épate, je voulais savoir ce que tu en pensais dans la famille réalité augmentée.
Eh bien, c'est incroyable que ça revienne, ça, parce que ben, tu te souviens de la version 1
des Google Glass, oui.
Des Google Glass, et qui n'a pas été une grande réussite. Mais je pense que très souvent, les trucs, quand ils démarrent, ils n'ont pas été des grandes réussites. Si tu regardes les premières tablettes, ça n'a pas été les premières réussites. Les premiers smartphones, ça n'a pas été des réussites. Quoi, tu vois, je crois qu'on enterre un peu vite les choses. Et d'ailleurs, on peut dire qu'en fin 1999, il y a plein de gens qui disaient ah ben Internet, finalement, ça n'a pas été une grande réussite. Hein. Sauf que très souvent, ça lance des dynamiques hein, et que des choses qui foirent complètement, qui ratent complètement et qui n'amènent pas des nouveautés, je trouve que c'est assez rare. Et donc, sur les Google Glasses, eh ben, on pouvait tenter de se dire, ah ben voilà, c'est un raté, et puis, non, parce qu'ils reviennent à l'achat. Donc, je trouve ça super intéressant sous l'angle de l'innovation, et j'ai un avis bien entendu sur cette dynamique de l'innovation dont je parlais à l'instant. Sur les lunettes même, j'ai pas trop d'avis. Je me souviens de l'impression bizarre que ça me faisait lors de la version 1 quand on croisait quelqu'un qui avait des lunettes comme ça. Ou ça foutait un peu la pétoche, je trouve, parce que tu te sentais un peu observé. Tu vois, je pense à tous ces endroits où on n'a pas le droit de photographier, pas le droit d'écouter, pas le droit. Ben là, avec un engin comme ça qui a la limite entre le technique et l'organique. Est-ce qu'on aura le courage de dire aux gens, ben non, retirez vos lunettes, surtout s'ils t'expliquent que s'ils ne retirent pas leurs lunettes connectées, ils n'y voient plus ou ils ne comprennent plus. En tout cas, ça va avoir le mérite de nous pousser à reconsidérer un tas de choses sur la privacité. Tiens, on pourra parler de privacité un peu après, si tu veux. Par contre, techniquement, je ne les ai pas utilisées. T'as eu des échos, toi?
Ben, j'ai eu des échos sur leur fonctionnalité, mais moi, ce qui m'épate le plus quand même, c'est que je me dis... Je peux parler avec un Chinois qui est en face de moi parce qu'il va me parler et dans mes lunettes, on va me raconter ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et si lui, il a les mêmes, du coup, moi, je vais lui parler en français et lui, il va voir mon texte en chinois. Et du coup, je vais pouvoir lui parler de la personnalité charmante de Franck Lefebvre et il comprendra ce que je lui dis.
Ouais, mais c'est vrai.
Donc
que
ça,
c'est...
ça me plaît, si tu veux quelque part. Les premières Google Glass, elles n'apportaient pas grand-chose. Je crois que tu es d'accord avec moi philosophiquement pour dire que un appareil technologique est utile s'il t'apporte quelque chose. Et là, pour le coup, ça peut apporter quelque chose.
Bien sûr, mais très souvent, on ne sait pas au moment. Il y a plein de technologies qui ont été inventées, qui ont commencé à être diffusées avant même qu'on pense à... Il y en a un qui est très souvent cité, hein, qui est le laser, où le laser a été inventé plus de 50 ans avant la première utilisation. C'est-à-dire que toutes les bases étaient là, tout. Il y a juste qu'on ne savait pas à quoi ça pouvait servir, alors que maintenant, des lasers, il y en a partout. Je me souviens la première fois, quand on a vu les premières tablettes bien avant l'iPad. Ah, d'ailleurs, je me souviens d'une tablette. Ah, j'ai plus le nom en tête, c'est bête. Tu sais, moi, la première tablette que j'ai vue et qui ressemblait vraiment à une tablette, elle avait été faite par des Français.
Ah, c'était pas Crunch, alors?
Non, je suis, je suis, je suis, je suis, euh, Ah, je suis vénère, j'ai pu. Ça reviendra et on en reparlera. C'était fait par une boîte qui était dans la région parisienne, qui existe toujours d'ailleurs, et qui avait fait une tablette. Ça avait toute la tablette, c'est-à-dire qu'avant, il y avait eu des ordinateurs portables. Microsoft avait fait des ordinateurs portables qui ressemblaient à des tablettes, même avec des formes un peu bizarres. Mais le premier truc, moi, j'ai vu qui ressemblait à une tablette. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que les trucs que Microsoft avait fait, c'était du Windows sur une machine assez portable et assez plate et sans clavier. Alors que celle à laquelle je pense, ils avaient refait toute une partie du système d'exploitation, en tout cas de l'interface homme-machine, et ils avaient fait, tu parlais d'usage tout à l'heure, ils avaient pris grand soin à ce qu'il y ait des usages familiaux intéressants. Donc, il y avait dessus un agenda familial partagé, il y avait des recettes de cuisine, il y avait des accès simplifiés à des flux vidéo, il y avait un tas de trucs. C'est-à-dire que toutes les bases de la tablette au niveau de l'usage étaient là. Et puis, tu vois, on parlait des précurseurs qui ne sont pas toujours les vainqueurs. Cette boîte, en tout cas son produit, j'en ai une qui traîne quelque part dans mes archives. Ce produit, en tout cas, a complètement disparu de la circulation. Je suis vraiment vénère de ne plus me souvenir son nom. Ça me reviendra.
Bon, d'accord. Tu voulais parler de privacité, peut-être.
Et tu sais, sur la traduction, je sais pas si tu te souviens de Skype. Je n'ai pas réutilisé ça, mais à une époque, Skype avait fait une grande annonce en expliquant qu'il allait y avoir dans Skype de la traduction simultanée. Et je me souviens à l'époque avoir essayé le système de traduction simultanée et qui était super pas performant. Donc je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il n'était pas performant. Et puis on en a
comme Cortana quoi.
Comme Cortana. J'ai jamais utilisé la traduction de Cortana. J'utilise sur la traduction. Tu utilises toi? Tu es amené à faire de la traduction de texte parfois?
Mais écoute, non. Pour l'instant, non.
Mais moi, j'en fais souvent. Et il y a un truc qui est extraordinaire qui s'appelle DeepL. Ça te parle, ça, DeepL?
Non.
DeepL, DeepL.com. Je crois que c'est une boîte qui est allemande et qui fait un système de traduction qui est incroyablement efficace. Moi, je l'utilise. Je l'utilise souvent pour améliorer des traductions. Tu vois, c'est-à-dire que je fais ma traduction parce que souvent je pense différemment en anglais qu'en français. Je mets ça dans la machine. Je regarde à partir de ma version anglaise, je regarde la version française qu'il fait, qui est souvent pas mal du tout. Et donc je prends la version française qu'il a faite. Je lui demande de la retraduire en anglais. Et à tous les coups, il y a des trucs à améliorer. Et je trouve ça, même sur des petites phrases, je trouve ça absolument génial. Ça m'est arrivé d'y passer des bouquins complets. C'est absolument génial. En tout cas, je conseille à tout le monde, DeepL.com. Je crois me souvenir que c'est allemand et la qualité est incroyable, très supérieure à tout ce que j'ai vu à côté de ça. Il y a un autre système de traduction que j'utilise souvent qui est celui de Telegram. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de dire comme j'appréciais l'utilisation de Telegram. Et ben dans Telegram, tu as un système qui permet de faire de la traduction directe. Ça utilise le traducteur de Google, et donc ça permet de s'abonner à des flux d'informations qu'on comprend pas. Par les temps qui courent, par exemple, moi j'ai éprouvé le besoin d'aller lire des choses dans des langues très bizarres, dont des langues cyrilliques, suivez mon regard. Et la qualité de traduction est super intéressante parce que ça permet de lire des canaux d'information qui sont vraiment issus d'autres cultures, d'autres points de vue, d'autres opinions. Ça me plaît bien. Tout ça pour dire que la traduction, c'est quelque chose de magique.
Oui, et évidemment, j'ai envie de te poser une question parce que je sais que tu connais la réponse. Je pense que la plupart de ces outils commencent à utiliser du machine learning pour améliorer leur traduction.
Bien sûr, ça ne marche que comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait bondir sur ce type d'usage, hein, c'est comme la reconnaissance vocale, ce qui a fait bondir les performances de ça, c'est l'utilisation du machine learning de façon très intensive, hein, Et d'ailleurs, si DeepL s'appelle DeepL, je pense que c'est pas un hasard. On parlait de privacy tout à l'heure. Tiens, moi, je te donnerais peut-être, je t'inviterais bien à parler. Est-ce que tu as suivi, donc, ça fait moins de bruit qu'un Google I.O., mais hier, il y avait la sortie d'un système qui s'appelle Murena. Ça te dit quelque chose ou pas?
Écoute, de nom, oui, mais je ne m'avancerai pas pour le décrire, donc je pense que tu seras bien plus doué que moi.
Eh bien, Murena, je trouve ça absolument passionnant. C'est l'aboutissement provisoire, mais l'aboutissement de quelque chose dont on a déjà parlé ici, qui est le système d'exploitation i, qui est fait par le français Gaël Duval, qu'on cite souvent comme un des inventeurs de la distribution Linux. Hein. Et Gaël, depuis 4 ans, je pense maintenant, a créé une société et une fondation à côté qui s'appelle i, et qui fait un système d'exploitation pour mobile, qui est l'équivalent, qui est un Google Android. Hein. Ils partent de la version d'origine, la version open source de Google, d'Android, et ils font un système d'exploitation pour mobile qui est le plus respectueux possible de la vie privée, c'est-à-dire qu'ils retirent d'Android tout ce qui est de la fuite de données vers Google ou d'autres. Et donc ils travaillent, c'est un boulot titanesque hein, parce que arriver à faire un truc qui marche à peu près, c'est facile, mais arriver à faire quelque chose qui est très compatible avec beaucoup d'applications, sachant qu'il y a beaucoup d'applications qui ont besoin de têter leur Google et d'aller poster des données chez Google pour avoir des résultats qui les intéressent, bah, arriver à faire marcher tout ça, c'est très très compliqué. Et donc depuis 3-4 ans, pour les gens qui le désirent, les gens peuvent acheter un téléphone dans le commerce et ils peuvent installer le système d'exploitation i, ça s'écrit barre de fraction, e barre de fraction, et ils peuvent, s'ils sont un peu bricoleurs et courageux, l'installer sur leur téléphone. Et puis s'ils sont moins bricoleurs ou moins courageux, ils peuvent soit acheter sur le site de i des téléphones qui étaient des téléphones recyclés, donc essentiellement des Samsung, mais des téléphones recyclés avec préinstallé le système d'exploitation de i, ou bien ils pouvaient acheter aussi des téléphones neufs, en particulier ils pouvaient acheter des Fairphone.
Et voilà, je m'en souviens exact, tu m'en avais parlé. Et c'est vrai que du coup, tu peux trouver des Fairphone avec ce système d'exploitation respectueux de tes données.
Absolument, absolument. Et donc, ils ont jugé récemment qu'ils arrivaient à un niveau de qualité et à un niveau de développement suffisant pour sortir la version 1.0. Et la version moins 1.0 avec l'ensemble du système, c'est-à-dire avec le téléphone, avec le système d'exploitation, avec un certain nombre d'applications dont on a besoin tous les jours, comme un équivalent de Maps, un logiciel de mail, un navigateur, etc., etc. Plus tout ce qu'il peut y avoir dans le cloud pour sauvegarder automatiquement tes photos, tes documents, pouvoir éditer des documents en ligne, etc. Et ben, ils ont reconstitué complètement cet écosystème, exclusivement avec du logiciel libre, hein, et l'ensemble de cette plateforme s'appelle Murena. Et donc, si tu vas aujourd'hui chez Murena.com, eh bien, tu vas pouvoir acheter un téléphone Murena avec tout le système Murena. Et donc, c'était hier l'annonce officielle. C'était passionnant. Et puis, ce matin, j'ai vu passer pas mal d'articles qui étaient globalement très positifs sur le système. Donc, les auditeurs d'amis qui ont envie d'acheter un téléphone respectueux de la vie privée, on peut leur conseiller quoi de mieux que d'aller chez Murena.
Eh bien, écoute, voilà un très, très bon conseil. Et je pense que le temps nous est imparti, ou je me trompe?
Non, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour l'instant. C'est pourtant pas les idées qui nous manquent. Mais qu'est-ce que tu veux, la bavardise? Il y a des gens qui prétendent que c'est un défaut. Je me plais à croire que non.
Bon, et ben moi aussi, 01 76 21 18 10, si vous voulez communiquer avec nous, avec Ami le podcast et avec Ami la radio, vous serez toujours les bienvenus. Et quant à nous, Franck, ce sera toujours avec un immense plaisir qu'on se retrouvera la semaine prochaine.
Bonne soirée, Guillaume.
Bye bye.